Vous écoutez France Culture.
Comment 6 heures ?
Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 25 mars et un autre jour est possible, toujours. Et avant les actualités du jour, avant 6h30, cette petite demi-heure, votre réveil culturel avec aujourd'hui au programme la série d'Hélène Lee, une autre histoire du reggae. Dans un instant, le deuxième épisode. Et ensuite, je serai avec mon invité du jour, Philippe Persson, pour son adaptation des Enfants du Paradis de Prévert en comédie musicale. Une autre histoire du reggae par Hélène Lee. Aujourd'hui, deuxième épisode, le mythe Sélassié. Bonjour Hélène Lee.
Bonjour. Ah, on va pas être copains si on commence par parler de Sélassié comme d'un mythe. C'était un grand chef d'État, un très grand chef d'État. Il a régné pendant plus de 50 ans. Il a fait mieux que De Gaulle.
Mais dites-moi Hélène Lee, puisque cette histoire, cette autre histoire du reggae est une histoire que vous avez conçue à contre-cliché, une des idées reçues quand on écoute le reggae, quand on s'intéresse un peu au mouvement Rastafari, c'est de dire que tous ces chemins quand même nous mènent vers un paradis idéal ou une source que tout le monde recherche, comme s'il y avait une Mecque dans cette nouvelle religion qu'est le rastafarisme, et c'est bien sûr l'Éthiopie.
Mais bon, si vous me permettez, je vais un peu reprendre l'histoire au début. Parce qu'en fait, si on regarde le mouvement Rasta, ce qu'il dit que dans ses chansons, ce qu'il dit dans ses textes, ce que défendent tous les gens qui se considèrent comme Rasta, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a rien de neuf. Tout ce qui existe dans le mouvement Rasta, tout ce qui a été dit dans le mouvement Rasta peut se retrouver, soit dans la philosophie hindoue, soit dans le socialisme, le marxisme, soit dans toutes sortes de pensées des temps modernes, y compris les surréalistes, y compris l'écologie, évidemment, les médecines douces. Tout ce qu'on trouve dans le mouvement Rasta existe ailleurs. Les Rastas n'ont pas inventé une pensée, ils l'ont glanée. Mais pour reprendre des choses vraiment au début, il faut reprendre l'histoire du mouvement noir. Parce que la pensée Rasta est totalement identifiée à l'histoire du mouvement noir. C'est-à-dire qu'on reprend l'histoire en fait à 1900, qui est l'époque de la première conférence panafricaine à Londres, organisée par un grenadien, je crois. Essentiellement basé sur la Caraïbe, puisqu'à l'époque, il ne se passait pas grand-chose encore sur le plan intellectuel en Afrique. On était en pleine colonisation. Donc, on peut considérer que 1900, c'est le début du mouvement noir. Entre 1900 et 1930, il y a eu toutes sortes de formes de mouvement noir, toutes sortes de leaders qui n'avaient pas tous les mêmes idées. Certains s'inspiraient de la Bible et d'une grande idée d'humanité universelle où les Noirs auraient leur même place, leur place aux côtés des Blancs en tant qu'égaux, en tant que fils de Dieu. Il y a eu des gens comme Booker T. Washington qui disaient « Soyez de bons ouvriers et les Blancs vous accepteront ». Il y a eu des gens comme Marcus Garvey qui disaient au contraire « Attendez que les Blancs vous laissent venir à votre niveau avant de leur serrer la main, parce que si vous leur serrez la main tant que vous êtes en bas, ils vont vous avoir comme ils vous ont eu depuis déjà quelques siècles ». Il y a eu toutes sortes de pensées différentes, sans parler des gens comme Nkrumah, des gens comme George Padmore, qui eux étaient partisans d'un marxisme noir, etc. Donc, à partir de 1900, tous ces esclaves qui, depuis une cinquantaine d'années, avaient obtenu leur liberté théorique, tous ces esclaves se sont dit « on a la liberté théorique, mais on n'a pas de pays, on n'a pas de gouvernement pour nous défendre, donc il va falloir qu'on s'organise pour obtenir nos droits. »
Et s'inventer une terre promise.
Et s'inventer une terre promise. Donc oui, mais justement, il n'y avait pas de terre africaine indépendante à part l'Éthiopie. Et c'est là la force extraordinaire de l'image de Selassie. C'est que le seul livre que les esclaves pouvaient lire, en général, c'était la Bible, quand ils y avaient droit, parce que même la Bible était considérée comme un peu sulfureuse dans certains milieux. Mais le seul livre auquel ils avaient accès, c'est la Bible. Or, la Bible ne parle d'Afrique que sous le nom d'Éthiopie. Donc, pour tous ces Africains qui lisaient la Bible, le pays des ancêtres, c'était l'Éthiopie. Donc, forcément, échapper à l'esclavage, c'était retourner vers une Éthiopie qui n'était peut-être pas réelle, qui était peut-être imaginaire, une sorte de paradis sur terre rêvé. Mais ce rêve de l'Éthiopie a balayé tout le siècle comme le rêve de terre promise a balayé tout le début du XXe siècle. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce XXe siècle, c'était pour tout le monde un rêve de terre promise. L'industrialisation avait complètement déboussolé tout l'équilibre mondial. Il y avait des populations entières qui changeaient de continent, soit sous l'effet des guerres, des colonisations, de l'industrialisation, du besoin de main-d'œuvre.
Et, si et les... des moyens de transport qui existent.
Et les moyens de transport, ça correspond à l'invention du bateau à vapeur, etc. Donc, d'un seul coup, des peuples entiers ont traversé des océans, fuyant des guerres ou à la recherche de travail. Et c'est pour ça que les États-Unis ont pu se construire, parce que Ford, s'il n'avait pas pu employer des gens 80 heures par semaine, y compris des enfants de 12 ans qui mouraient sur leur chaîne de fabrication, ils n'auraient pas pu construire l'Amérique d'aujourd'hui. Donc cet énorme mouvement du début du XXe siècle, avec l'ouverture du canal de Panama, avec la guerre de 14, première guerre mondiale, tous ces bouillonnements ont créé le besoin de toutes sortes d'utopies, de rêves, de terres promises, et pas seulement chez les Noirs, aussi chez les Blancs. Donc c'était vraiment la grande époque de la terre promise, et pour le mouvement noir international, il ne pouvait y avoir qu'un pays où les Noirs seraient les bienvenus, c'était cette fameuse Éthiopie, qui pour eux, en fait, représentait toute l'Afrique.
Mais où on trouve aucune racine du reggae?
Non. Et même l'Éthiopie est un des pays où le reggae a le moins d'impact, parce que le reggae est souvent une musique d'identité qui est adoptée par des gens qui ont un besoin identitaire fort, alors que les Éthiopiens, ils ont besoin de rien du tout. Ils savent exactement qui ils sont rien moins que les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. Et il ne faut pas qu'on vienne leur parler de petits-fils d'esclaves de la Caraïbe qui viennent leur donner des leçons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce qu'il faut quand même revenir maintenant à la façon dont le mouvement Rasta est né, au milieu de cet énorme bouillonnement du début du XXe siècle, de cette mondialisation galopante et de cette industrialisation galopante du début du XXe siècle, brusquement, on ne voit pas apparaître le mouvement Rasta. Il n'est pas venu de nulle part, et il n'est pas venu n'importe comment. Donc, en fait, il faut parler des migrants de la Caraïbe qui sont allés dans le monde entier à la recherche de travail. Ils sont allés sur les chemins de fer du Costa Rica, ils sont allés à Panama terminer le canal, ils sont allés dans les tranchées de la guerre de 14 en tant que sujets britanniques. Bref, ils ont vu la révolution russe, puisqu'ils se sont retrouvés pendant la révolution russe sur les bateaux américains à Vladivostok ou à Mourmansk. Bref, ils ont découvert ce monde en plein chambardement.
Le monde nouveau, ouais.
Et ils ont terminé. Et lorsque la guerre a été finie, ils se sont retrouvés où ? À Harlem. L'extraordinaire Harlem des années 20 et 30, la Harlem Renaissance, cette espèce de renouveau. En fait, c'est là qu'on pourrait dire qu'est né le mouvement Rasta. Parce que tout s'est passé à Harlem entre 1910 et 1930. Avec Marcus Garvey, qui avait quand même des centaines de milliers. On dit qu'il a eu jusqu'à 6 millions d'adeptes, Marcus Garvey. Et il était basé à, Il était basé à New York. C'est quand même lui le premier, le plus grand leader noir de tous les temps. Et tous ces petits gens de la Caraïbe se sont retrouvés auprès de ce Jamaïcain qui avait fait une énorme poussée, une énorme percée aux États-Unis, au point que tout le monde l'avait suivi. En plus, lorsque la guerre de 14 se termine, tous ces anciens soldats jamaïcains ou caribéens se retrouvent à New York. Et à New York, c'est la grande époque de Marcus Garvey. Marcus Garvey, premier grand leader noir de tous les temps, qui a eu jusqu'à, dit-on, 6 millions d'adeptes. Et c'était ce leader qui, au lieu de demander aux fils d'esclaves d'être bien gentils et d'obéir aux blancs pour être acceptés, leur disait au contraire, soyez vous-même et essayez avant tout d'avoir votre propre base économique, d'avoir vos propres entreprises, d'avoir éventuellement des entreprises en Afrique aussi pour aider le peuple africain à reconquérir ses terres, puisque à l'époque, il n'y avait que l'Éthiopie qui était réellement indépendante. Donc, Marcus Garvey a eu un impact absolument fantastique, non seulement sur les États-Unis noirs, mais aussi sur le monde, puisque les dirigeants de l'ANC, toutes sortes de mouvements noirs qui étaient en train de naître un peu partout en Afrique, se sont inspirés de Marcus Garvey, étaient des lecteurs de son journal, etc. etc.
C'est, alors, à quoi ressemblait Harlem à cette époque? On parle d'Harlem Renaissance, mais ça ressemblait à quoi et quel rapport avec le reggae?
Suite à la guerre de 14, Harlem, on avait besoin de main-d'œuvre à Harlem. Il y avait toutes sortes de boulots qui autrefois étaient occupés par des blancs. Ces blancs étaient partis à la guerre, il fallait les remplacer. Et donc, d'un seul coup, il y a eu un petit peu plus de travail à Harlem pour les noirs. Et comme ils avaient l'habitude de vivre avec rien, ils ont commencé à construire de petits empires dans l'immobilier, dans la restauration, dans toutes sortes de, dans la mode, dans toutes sortes de domaines où ils avaient une clientèle assurée parmi la population noire. Et la musique, évidemment, puisque c'est aussi l'époque où le jazz commençait à exploser, où même les Blancs venaient à Harlem pour écouter le jazz. Donc cet extraordinaire mouvement culturel de Harlem, où on disait que les femmes de ménage passaient leur doctorat au coin des rues à écouter les orateurs, où tout le monde lisait, où tout le monde voyageait, cette extraordinaire atmosphère de Harlem, ça a été vraiment la pépinière de tous ces penseurs qui ensuite sont retournés dans la Caraïbe en 1929 suite à la Grande Dépression et au fait que tous ces gens ont perdu leur travail.
Dont Marcus Garvey. Et quel rapport, Hélène Lee, entre Harlem, Harlem Renaissance, Marcus Garvey, qui est donc... on l'imagine comme leader syndicaliste politique, se battant déjà avant l'heure pour les droits civiques des Noirs, et ce qui nous intéresse cette semaine, c'est-à-dire le reggae.
En fait, Garvey est le principal personnage de toute cette époque dans le mouvement noir, essentiellement parce que son image forte a redonné confiance à énormément de gens. Et ça, c'est très important dans le reggae, parce que le reggae aussi est basé sur le principe d'une sorte de rédemption de l'image noire. Donc Garvey, avec ses costumes flamboyants, avec ses limousines, avec ses chapeaux extraordinaires à plumes, avec son ton de voix incroyablement digne, son anglais parfait, d'une clarté, et son argumentation d'une clarté extraordinaire. Garvey est vraiment devenu l'outil de reconstruction de tous ces Noirs qui n'arrivaient pas à se sortir de cette image détruite qu'on leur avait imposée depuis l'époque de l'esclavage. Et donc, c'est extrêmement important et c'est pour ça que le reggae, souvent, se considère comme l'héritier de Marcus Garvey. Ça n'est pas tout à fait vrai sur le plan des théories, parce qu'en fait, Garvey n'était qu'un capitaliste noir. Tout ce qu'il voulait, c'est que les Noirs aient assez de capital pour faire la nique aux Blancs. Et alors que dans le mouvement Rasta, il y a avant tout l'idée d'une autosuffisance, quitte à vivre avec pas grand-chose, ne dépendre surtout en rien du monde financier. Et à la limite, il y a même des Rastas socialistes, ou des, en tout cas, les Rastas s'entendent toujours bien avec les socialistes, et il y a même des Rastas marxistes qui, prônent carrément la sortie du système financier international, du système capitaliste international. Donc, il y a des lieux entre... Il y a un gouffre entre la pensée de Garvey et la pensée Rasta à proprement parler.
Et pourtant...
Mais c'est ce côté de identitaire qui fait la liaison entre les deux. Parce que pour un peuple entier qui est issu de l'esclavage et qui vit dans la terreur de se souvenir du bruit, du fouet, et qui vit toujours pourchassé de terrain en terrain, parce que chaque fois qu'il s'installe quelque part, on le chasse, et qui n'a pas les moyens de s'acheter de terre, cet homme est à reconstruire. Il faut lui rendre sa confiance en lui. Il n'arrivera à rien tant qu'il n'aura pas retrouvé sa confiance en lui. Et pour ça, Garvey a fait le maximum en justement redonnant à l'image noire tout son lustre.
Alors justement, demain, pour le troisième épisode de cette série consacrée au reggae, Hélène Lee, on parlera de la cristallisation de la culture rasta, et on parlera bien sûr d'un lieu très important, le Pinacle. Mais est-ce que les pionniers du reggae font référence explicitement ou implicitement à Marcus Garvey?
Oui, Garvey est vraiment une figure tutélaire du reggae. On peut dire que même il a usurpé la place du vrai fondateur du mouvement Rasta, qui s'appelle Leonard Percival Howell, qui était un immigré jamaïcain qui a fait plusieurs fois le tour du monde sur les bateaux, et qui s'est retrouvé donc avec ses quelques précurseurs Rasta dans le Harlem des années 20 et 30. C'est lui vraiment qui devrait être la figure tutélaire du reggae, mais la puissance de l'image de Garvey était telle qu'elle a tout supplanté, même si les théories de Marcus Garvey sont assez loin du reggae. Voilà pourquoi énormément de chansons rendent hommage à Marcus Garvey. Il y a les fameux Burning Spear, il y a des titres sur les Black Star Liner, il y a des titres sur l'UNIAA, il y a même des gens qui ont repris des discours de Marcus Garvey pour en faire des chansons. C'est vraiment... Mais de toute façon, les textes de Marcus Garvey sont superbes et ça fait des chansons extraordinaires. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même si la pensée finale de Marcus Garvey sur le plan social... était assez préhistorique. Marcus Garvey, lui, va retrouver la Jamaïque en 1927, lorsqu'il est enfin gracié et envoyé dans son pays. Mais c'est sûr que lorsque... il faut se rendre compte, 1927, on est en pleine colonisation. Donc quand le gouvernement de Jamaïque voit débarquer cette espèce de noir à la grande gueule qui a peur de rien et qui les apostrophe comme si il était leur égal et qui a pas peur de répandre parfois même les pires calomnies à leur égard et à analyser le système colonial pour ce qu'il est, c'est évident qu'on va pas lui dérouler le tapis rouge, même s'il y a déjà à l'époque un tout début de gouvernement local. Donc le pauvre Marcus Garvey, on lui met des embûches on met des embûches sur sa route. Même lorsqu'il est élu, soit au conseil municipal, soit à un poste au conseil législatif, on se débrouille pour faire en sorte qu'il ne puisse pas siéger, par exemple en l'arrêtant pour une bêtise quelconque. Et à partir du moment où il est en prison, il ne peut pas siéger, etc. Donc on lui met des bâtons dans les roues, on l'empêche de fonctionner, au point qu'en 1935, désespéré, il va en Angleterre en espérant trouver là-bas des appuis avec lesquels il puisse remonter son mouvement. Et c'est là qu'il mourra de manière totalement lamentable et triste et pratiquement abandonné par les millions qu'il avait suivis jusque-là.
Et aujourd'hui, en Jamaïque, son nom est présent, sa mémoire est toujours vivante ?
Oui, sans doute, Marcus Garvey est-il le personnage le plus représenté sur les graffitis, dans les graffitis de Jamaïque. Il n'y a pas un mur de graffiti sans une image de Marcus Garvey. C'est vraiment quelqu'un qui est énormément aimé par la population. Il y a encore des légendes qui courent sur l'époque où... par exemple, il y a encore une vieille marchande de haricots, de Rio Haricots de la place centrale, qui, elle, ne met jamais de haricots dans son riz, alors que pourtant c'est la mode jamaïcaine, parce qu'on a acheté les adeptes de Marcus Garvey avec du riz aux haricots, et que c'est pour ça qu'ils ont abandonné Marcus Garvey, et en représailles, la vieille dame, encore vivante aujourd'hui, ne met pas de haricots dans son riz.
On se retrouve demain, Hélène Lee.
Si vous voulez.
À demain.
À demain.
Bonjour Philippe Persson.
Bonjour.
Alors, adapter l'œuvre patrimoniale de Jacques Prévert, Les Enfants du Paradis, à jamais sacralisé par Arletty, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault au cinéma, c'était en 45.
Ouais.
Et pour toujours, tant que le chef-d'œuvre de Marcel Carné pourra être vu. Donc, adapter ce chef-d'œuvre en comédie musicale et pour le théâtre, c'est pas un peu casse-gueule ?
Alors, c'est risqué, on va pas dire casse-gueule, il y avait le risque. Avant tout, c'est quand même pas... Il y a beaucoup de musique, mais c'est pas traité en comédie musicale. C'est-à-dire qu'en fait, le départ, le projet, c'est avant tout le scénario de Jacques Prévert. C'est-à-dire se dire, on part vraiment d'un texte, on essaie d'oublier momentanément le film et on part du texte. Et la force de ce texte, avec la force de ces dialogues, la poésie qu'il y a dans ces dialogues, la précision avec laquelle Jacques Prévert met chaque dialogue en forme pour chaque personnage. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Je me suis dit, là, il y a une force à trouver au théâtre. Alors après, effectivement, il faut oublier Arletty, il faut oublier Brasseur, il faut oublier tous ces grands comédiens et se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai un texte. Alors c'est Philippe Honoré qui a fait une adaptation en une heure un quart.
Qui n'est pas une adaptation contemporaine, hein, parce que sur scène, l'action peut se passer aujourd'hui, hier, demain. Quoi.
Exactement, donc c'était ça le parti pris. Déjà dans l'adaptation, c'était de dire, on ne réécrit pas évidemment, puisque c'est ça qui nous passionne, c'est l'écriture de Prévert. Donc en fait, Philippe Honoré a reconstruit en fait un autre puzzle avec tous les mots de Prévert. Et puis ensuite, c'est de se dire, voilà, on a ce texte aujourd'hui, comment on le traite aujourd'hui, comment on traite ce texte en 2014. Alors c'est vrai qu'il faut sortir des images du film, il faut s'approprier ce texte et se dire, voilà, j'ai ce texte en main et je fais une mise en scène au théâtre, comme si on m'avait donné, je dis n'importe quelle adaptation, en tout cas, un texte qui n'est pas dans l'imaginaire des gens aussi présent. Sinon, j'aurais pas pu, moi. Hein. Moi, j'aime beaucoup le texte, évidemment, parce que c'est ça qui m'a motivé pour le projet. J'aime beaucoup le film. Donc, l'idée première, et c'était en accord avec Eugénie Prévert, la petite fille de Jacques Prévert, c'était surtout de dire, je vais pas essayer de faire une reconstitution et dans les décors, et dans les costumes, et dans la manière de jouer. J'ai dit, moi, j'ai vraiment envie de me l'approprier. Et c'est toujours ce qui me passionne avec les grandes œuvres.
Alors, qu'est-ce que vous gardez du texte original de Prévert ? Les répliques, je suppose ?
On garde les répliques, on garde les scènes, on garde une forme, on garde la même forme de narration, sauf qu'on va beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'il y a des ellipses, en fait, hein, pour le faire en... Le film dure 3h03, donc nous, la pièce dure 1h10, 1h15, donc forcément, on a fait des ellipses. On a enlevé quelques personnages et on a gardé évidemment les personnages principaux puisque le parti pris d'adaptation de Philippe, c'était de dire voilà, c'est l'histoire d'amour autour de Garance. Ces trois hommes qui sont amoureux de Garance, ces trois hommes qui aiment de manière différente, ces trois hommes qui à un moment donné vont être jaloux, mais jaloux différemment. Donc voilà, c'était vraiment l'histoire de traiter cette ronde autour de ce personnage qui... Garance qui, sans le vouloir, en fait, voilà, fait tomber les hommes, provoque des sentiments incroyables. Donc c'était ça. Après, toute la fresque que Prévert et Carné ensuite dans le film ont fait, ça, on l'a laissé au second plan.
Et tous les personnages seront représentés sur scène ou c'est...
Les sept personnages principaux, ouais. Parce qu'on a décidé, nous, personnages ouais. principaux, mais dans cette adaptation, sont joués. On est quatre acteurs sur scène. Et en fait, on joue plusieurs rôles chacun, sauf Florence Lecor, qui joue Florence Lecor Persson, ma femme, qui joue le seul rôle de Garance. L'idée, c'était vraiment de faire le tourbillon autour de ce personnage.
Et sur scène, il y aura de la musique.
Oui, il y a beaucoup de musique, oui. Il y a beaucoup de musique.
Et chansons.
Musique, chansons. Je voulais vraiment, j'ai toujours dit pareil au début du projet, je trouve ce texte de Prévert, je le trouve très rock'n'roll. Je le trouve très rock'n'roll. Dans l'image de la femme qui donne, dans l'envie de liberté, dans le côté aussi quand même un peu pas anarchiste mais un peu non conformiste. Donc tout ça m'a fait penser à des valeurs sur lesquelles on peut dire que le rock'n'roll est né. Donc je me dis mélanger tout ça.
Vous-même étant un enfant du rock,
voilà. Donc voilà et tout ça se mélange joyeusement. C'est vrai. J'ai toujours dit en fait, je veux vraiment faire un spectacle gai, joyeux, quelque chose. Voilà. Alors après il y a la profondeur des sentiments. Il y a le personnage de Lassner qui est un peu plus noir et il y a quand même du danger. Mais je voulais vraiment que les spectateurs sortent de là, voilà, gais, joyeux, enthousiastes. C'est ce que ce texte, moi, me provoque. Donc, en tant que metteur en scène, on essaie à chaque fois de restituer ça et de dire voilà pourquoi j'ai aimé ça. Et puis après, au deuxième degré, c'est vraiment la rencontre d'une œuvre du patrimoine parce que tout le monde connaît, sans connaître à fond, mais tout le monde connaît. Et c'était de faire se rencontrer, voilà, une œuvre du patrimoine avec ce que j'estime être une grande modernité, mais en fait c'est cette collusion comme ça des époques qui m'intéressait.
Avec la culture rock, on peut le dire.
Avec la culture rock, ouais.
Et qu'est-ce que ça donne au niveau rock? Ce sont des chanteurs connus qui viennent, qui reprennent le texte de Prévert ou ce sont
des
compositions originales?
Oui, ce sont vraiment des musiques de soutien, comme on dit, hein, c'est-à-dire ce sont des musiques. Moi j'aime beaucoup au théâtre mélanger les voix, les musiques. Donc voilà, donc c'est toute une bande son qui se mêle parfois sur les dialogues, parfois qui servent d'intermède. Enfin voilà, c'est un joyeux mélange. Au programme, vous voulez le nom de... Alors voilà, bah il y a les Rolling Stones, il y a Shannon Wright. Je me suis aussi inspiré parce que quand même dans la pièce, je fais quand même un hommage au cinéma. Donc il y a toute une scène, justement la scène où Baptiste déclare son amour à Garance, où je l'ai vraiment traité comme un tournage de film. Et donc voilà, avec la musique de In the Mood for Love en second plan. Et on a vraiment l'impression qu'on est en train de tourner cette scène. Voilà, c'est un hommage. Le film parlait beaucoup du théâtre et nous, on parle aussi, aussi de cinéma dans la pièce.
Ça passe où?
Ça passe au Théâtre du Lucernaire, tous les soirs à 20h du mardi au samedi et les dimanches à 15h.
Est-ce que vous avez demandé aux comédiens de revoir quand même le film de Marcel Carnet? Ou surtout pas?
Pas surtout pas, en fait. Moi, je laisse les comédiens assez libres de ça. Je leur ai pas conseillé. Je leur ai dit s'il fallait le regarder, il fallait le regarder avec modération, parce que je pense que c'est trop écrasant, soit pour Florence, soit pour moi, enfin pour tout le monde. Moi, je joue Frédéric Lemaître. Si je commence à vouloir imiter Pierre Brasseur ou à me comparer avec lui, ça y est, j'ai plus le moral au début des répétitions. Donc, en fait, il faut se l'approprier. C'était ça tout le travail, en fait. C'était de se sortir de ça. De se l'approprier.
Merci beaucoup d'être passé ce matin pour nous en parler, Philippe Persson.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Dans un instant, Marc Coinchet. La matinée continue sur France Culture avec l'actualité. Moi, j'espère vous retrouver demain à la même heure pour écouter cette émission. Un seul lien, franceculture.fr, et vous vous laissez guider jusqu'à la page d'Un autre jour est possible. À bientôt, à demain.